colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Jean Bachelet et Marion Trévisi pour m'avoir invité à ce beau colloque. Même si je dois l'avouer, cela m'a demandé quelques travaux, puisqu'il y a énormément d'ouvrages sur l'esclavage en général, mais pratiquement aucune synthèse sur le sujet que je vais traiter ce matin, à savoir être femme et esclave. On dispose évidemment d'études sur la place des femmes dans telle ou telle société esclavagiste, mais finalement, ces études n'ont pas été recollées, n'ont pas été mises en perspective, et ça ne permet qu'une approche assez impressionniste de la question. Jacques Herz, médiéviste, écrivait d'ailleurs que si les sources sont parfois rares, le plus souvent, c'est le questionnement qui fait défaut par rapport à ce sujet, les femmes et l'esclavage. Ou si je consacrerai la première partie de mon exposé justement à essayer de comprendre les motifs de cette absence, ou relative absence. Ensuite, j'essaierai de voir, au-delà de ces miroirs déformants, quelles étaient les réalités complexes des modes d'exploitation des femmes esclaves. Et puis enfin, troisième partie, je réfléchirai au mode de résistance des femmes face à l'esclavage. Avec un fil rouge, évidemment, une interrogation cardinale, à savoir celle des spécificités ou non de l'esclavage des femmes par rapport à celui des hommes. Enfin, dernière précision, je ne peux pas tout embrasser, évidemment. Donc, je me centrerai sur quelques types d'esclavage, à savoir ceux qui ont concerné les mondes gréco-romains antiques, l'Amérique coloniale moderne et contemporaine, les mondes musulmans et ceux de l'Afrique subsaharienne précoloniale. Et donc, tout d'abord, je commencerai par une citation de Jacques Herz. Si l'étude de la main-d'œuvre servile féminine dans les villes d'Italie, de Provence ou de Catalogne au Moyen-Âge fut longtemps négligée, écrit-il, parfois même complètement ignorée dans nos livres, la documentation ne faisait pourtant pas défaut, bien au contraire. Alors, pourquoi ce relatif faible intérêt pendant de longues années vis-à-vis de la condition de la femme esclave en général et pas simplement pour les villes d'Espagne ou d'Italie du Moyen-Âge? Alors, parfois, on parle simplement de tabou. Il me semble que c'est rapidement invoqué, et je parlerai plutôt ici de stéréotypes et de préjugés. J'aborderai deux préjugés, deux stéréotypes. Le premier revient à considérer que la question de l'exploitation de la femme esclave serait entièrement soluble dans celle de ses usages sexuels. D'où l'idée d'esclavage finalement peu utile, car peu productif, entre guillemets. Dans le cas d'Amérique coloniale, par exemple, où l'esclavage est souvent perçu comme ayant été uniquement économique, il y a une tendance à sous-estimer le rôle des femmes. Dans les traites orientales, à travers le Sahara et à destination du Moyen-Orient, on estime inversement parfois que, sur la longue durée, du 7e siècle au 19e, les femmes l'auraient emporté en nombre par rapport aux hommes. Pourtant, là aussi, on arrive à des conclusions à peu près comparables, à savoir, puisque cet esclavage aurait favorisé surtout l'arrivée de concubines et d'eunuques, on considère que finalement, cet esclavage, surtout érotique, n'a pas eu finalement d'effet pour les régions d'arrivée des esclaves. On voit donc que, quel que soit le nombre de femmes concernées, on arrive à en minimiser souvent le rôle, du fait de syllogismes emboîtés, qui empruntent à des travers isographiques et puis à des poncifs sexués. L'esclavage aurait avant tout été un mode d'exploitation du travail, donc son utilité aurait avant tout été économique et uniquement économique. Et comme la femme serait moins efficace que l'homme en la matière, les femmes n'auraient joué qu'un rôle faible dans l'histoire des esclavages. Voilà pour le premier stéréotype. Le second poncif est tout aussi fréquent et finalement il conduit à réifier une vision assez fantasmagorique de l'usage sexuel des esclaves. Avec d'un côté l'idée toujours répétée de femmes qui seraient susceptibles d'être en permanence violées, et de l'autre des images longuement développées relatives aux enfants issus des relations entre maître et esclave. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la question semble d'ailleurs intéresser beaucoup les planteurs de Saint-Domingue, qui s'inquiètent des limites apportées par la législation métropolitaine, la reconnaissance et surtout l'affranchissement des enfants issus de ces relations. Ici comme ailleurs, dans le vieux Sud, au XIXe siècle, ou en Amérique continentale ibérique, l'image de planteurs soucieux de prendre soin de leurs concubines et leurs enfants, illégitimes, est souvent développée. Il est vrai qu'elle a étayée par des sources vérifiables, notamment testamentaires, mais elle est à mettre en relation également avec d'autres images également favorables, comme celle dans le vieux Sud de la bonne gouvernante ou la gentille nurse. Plus généralement, c'est à mettre en relation avec l'idée de la créolisation des sociétés coloniales américaines et donc l'idée d'un métissage dont la réalité est évidente, mais qui ne peut pas masquer évidemment l'ampleur des discriminations sur lesquelles étaient fondées ces sociétés. J'ajouterais que l'image du planteur attentif au devenir de leurs concubines et leurs enfants témoigne autant d'une réalité que d'un discours en partie auto-justificateur. Et considérant qu'il s'agit là de la société qui est allée le plus loin dans ce domaine, Orlando Patterson souligne, à propos du vieux Sud, l'existence d'une relation qui serait quasiment de nature psychanalytique entre des planteurs abusant de leurs femmes esclaves, mais en même temps des planteurs intimement honteux de cette attitude, contraire aux préceptes de leur religion et contraire à l'image qu'ils se font de leurs épouses, elles-mêmes considérées par eux comme l'un des ciments de l'ordre social et moral sudiste. Plus généralement, il faut sans doute voir finalement dans cette existence d'une relation fréquente, mais perçue comme contre nature, l'une des raisons du discrédit qui pèse sur les femmes libres de couleur dans l'Amérique coloniale à la fin du XVIIIe siècle. Regardons maintenant vers le monde oriental et on arrive à des conclusions finalement en partie comparables, avec l'image habituellement véhiculée à propos de l'esclavage dit oriental, à savoir celle de concubines évoluant dans le luxe, l'insouciance et la volupté des harems. Image qui résulte tout à la fois des fantasmes orientalistes de l'Occident et de la volonté des maîtres qui considèrent que la mise en avant d'une luxueuse domesticité féminine ne peut que rehausser leur prestige. Alors au total, dans ces deux cas, qu'est-ce qui se dessine dans le cas de l'Amérique coloniale comme dans celui de l'esclavage oriental, entre guillemets? Eh bien, c'est tout d'abord, donc, comme je le disais, l'idée d'un esclavage féminin relativement peu utile, car peu productif, entre guillemets. Et c'est aussi celle d'un esclavage relativement doux, également, entre guillemets. Doux par rapport à l'image dans laquelle l'esclavage serait uniquement une forme d'exploitation du travail et la plus dure de ces formes d'exploitation du travail. Dans ce contexte, on comprend pourquoi l'histoire des femmes esclaves est demeurée en partie obscure. Comme elle ne ressortirait pas l'histoire des formes d'exploitation du travail, elle a pu être perçue comme un non-sujet. Et comme elle a été pensée également comme renvoyant uniquement aux usages sexuels du corps et donc à l'immoralité, elle n'a pas non plus suscité un grand enthousiasme de la part des chercheurs. Ces pseudo-évidences, ces clichés, sont évidemment complètement dépassés. Et je voudrais, pour bien en prendre conscience, passer maintenant, donc, dans ma seconde partie, aux représentations, des représentations, aux réalités de l'exploitation des femmes esclaves. La première de ces réalités, c'est la peur, la hantise universelle inspirée aux femmes par l'idée d'être réduites en esclavage. Dans l'Iliade, pleurant la mort d'Hector et donnant le signal des plaintes funèbres, Andromaque s'exclame « Époux, tu quittes la vie et péris bien jeune, me laissant veuve en ta maison, toi qui lui gardais ses nobles épouses, ses jeunes enfants. Bientôt elles seront emmenées sur les nefs creuses et moi avec elles. » Euripide ne fait pas dire autre chose à Andromaque dans la tragédie éponyme qui lui consacre. De fait, comparé à l'enfant, sans défense, la femme est livrée à l'innommable. Synonyme de dépossession, sa déchéance fait d'elle la compagne obligée du lit de son vainqueur, fait d'elle une esclave comme les autres, et je dirais même peut-être une esclave plus que les autres. Dans « Qu'est-ce que l'esclavage ?», paru chez Gallimard il y a 2 ans, j'ai mis en avant 4 critères qui pourraient permettre de définir ce qu'est un esclave. Ces critères, évidemment, sont tout aussi applicables à l'homme qu'à la femme. Voire plus, disais-je. Pourquoi ? paradoxalement, peut-être pas du fait même du sexe de son sexe. Car femme, elle est libre, femme, elle reste esclave. Alors que des hommes peuvent être transformés en eunuques. Pas non plus du fait des usages sexuels que l'on peut faire d'elle. Des hommes peuvent également être abusés sexuellement par d'autres hommes. On nous connaît des exemples dans le monde gréco-romain où, parmi les chrétiens, enfermés dans les bagnes d'Alger d'ailleurs à l'époque moderne. Et puis, même si socialement et culturellement c'est moins apprécié, donc si ce phénomène est plus masqué, on a également des exemples d'hommes esclaves abusés sexuellement par des maîtres féminins. Juvénal écrit dans ses satires l'usage que les femmes romaines peuvent faire des eunuques. Même si la femme libre à Rome, prise en défaut avec un esclave, peut théoriquement être réduite en esclavage et même exécutée. Or, ça n'empêche pas Pétrone de souligner dans son Satyricon que Trimalcion a été en partie affranchi du fait de ses complaisances à l'égard de son maître, mais aussi de sa maîtresse. Moins cru, souvent masqué, on a également des propos, des attitudes de femmes de colons tout aussi révélateurs dans les Antilles françaises du XVIIIe siècle. Frédéric Réjean nous donne un témoignage de 1807 qui indique que les femmes esclavagistes sont, je cite, assez connaisseuses pour les faire elles-mêmes leurs emplettes à bord des bâtiments négriers, n'hésitant pas à inspecter avec attention certaines parties, prétendant y trouver des signes moins équivoques que dans tout autre de la bonne ou mauvaise santé des nègres. Fin citation. À lire Réjean, on devine d'ailleurs aussi également que le fait de rabaisser le noir à un animal permet aussi aux dames de feindre l'indifférence à leur nudité, signe de la complexité avec laquelle fantasmes et tabous s'agencent dans la société esclavagiste. Mais alors, en quoi, finalement, quelle est la spécificité de la femme et en quoi cet esclavage est peut-être encore plus dur? La réponse, il me semble, doit être cherchée dans les représentations et dans les statuts considérés comme socialement légitimes de la femme. Dans beaucoup de sociétés pré-industrielles et même au-delà, la femme dépend toujours d'un autre, que ce soit son père, son frère, son mari. Mais ce positionnement qui fait d'elle un être mineur est aussi celui qui, dans ces sociétés, peut conduire à la valoriser. Hommes et femmes devenant esclaves sont arrachés à leur société d'origine, coupés de leurs liens sociaux et familiaux, coupés des liens de filiation antérieurs. Mais les valeurs qui étaient socialement attachées aux hommes auparavant, comme la force, la virilité, etc., demeurent généralement, même si certains deviennent eunuques, même si on peut confier à certains hommes esclaves des tâches habituellement confiées à des femmes. Devenue esclave, la femme, elle, se voit dépossédée de s'y contribuer à lui assurer un statut, même inférieur, dans sa société d'origine. On lui dénie généralement la possibilité d'être mère. Non pas parce que ses enfants ne lui appartiennent pas, ses enfants n'appartiennent pas non plus à leur père biologique si elle est esclave, mais parce que le fait même de donner la vie est conditionné par le bon vouloir du maître. Ajoutons, comme l'a montré Arlette Gauthier dans le cas des Antilles françaises des XVIIe et XIXe siècles, que finalement la femme esclave est doublement dépendante de son maître, évidemment, ou de sa maîtresse, mais aussi des esclaves hommes. Et donc la différence de l'homme qui, dans l'esclavage, peut retrouver des attributs positifs associés à son genre, être femme et devenir esclave, c'est continuer à subir la domination des hommes, tout en connaissant une aversion des valeurs qui jusque-là pouvaient justifier de son rôle social. Troisième point, les femmes esclaves sont sujettes à toutes les formes d'exploitation possibles. La première de ces formes est l'exploitation sexuelle, c'est la plus connue. Elles peuvent être sexuellement abusées à tout moment, sans que cela soit considéré par un viol, par leur maître. Elles peuvent également être utilisées comme prostituées. Le cas était fréquent dans la Chine des débuts du XXe siècle. On retrouve également, bien avant, chez Juvénal, dans ses satires, lorsqu'il dénonce dans son livre 7, dans son livre 3, pardon, les coutumes, dit-il, venues de Syrie, parmi lesquelles, je cite, la prostituée en vente au carrefour. On sait qu'en Afrique subsaharienne précoloniale, des concubines royales étaient parfois utilisées pour aguicher des hommes libres, pour ensuite les faire condamner à l'esclavage. Dans ses satires, Juvénal nous rappelle encore que la domestique esclave est quasi naturellement sujette aux assauts de son maître. Si l'époux a dormi toute la nuit, dit-il, écrit-il, tournant le dos à son épouse, malheur à l'intendante ou à la coiffeuse. Apulée dans ses métamorphoses nous dit à peu près la même chose, mais pas à propos du maître, à propos de l'hôte simplement masculin de passage. Point d'intrigue amoureuse avec ton hôtesse, y est-il mentionné. La couche de l'honnête Milon doit être sacrée pour toi, mais il y a Fautis, la jeune chambrière, qu'il te faut emporter de haute lutte. Une longue description suit, qui emprunte au cliché du genre, à savoir ceux de la domestique volontairement guicheuse et donc responsable de son sort, et ceux des jeux de l'amour. Cliché qui, finalement, ne masque pas, évidemment, ce qui est la simple transposition d'un rapport de domination. Rapport de domination que l'on rencontre à d'autres époques, d'ailleurs, et pas simplement dans le milieu des domestiques esclaves, mais aussi dans le milieu des domestiques libres, y compris au XIXe siècle, du fait d'une proximité qui a longtemps été admise dans notre société entre le statut de l'esclave et le statut du domestique. La domesticité ressortissant du large monde de la dépendance, en partie connectée à celui de l'esclavage. Loin des vapeurs et des images édulcorées des harems, des rigides voyageurs arabes du Moyen-Âge nous décrivent aussi, également sans phare, les réalités de l'esclavage sexuel des femmes. Le Coran, écrit Jacques Hers, ne permet de prendre des épouses qu'en nombre limité. D'où l'intérêt de Ibn Battuta, qui se félicite de la commodité dans les Maldives, donnée aux marins et aux marchands d'acquérir une ou plusieurs femmes par suite d'une sorte de mariage à terme. Dans sa description de l'Afrique septentrionale, Al-Bekri, au XIe siècle, décrit dans les oasis de Mauritanie et du Maroc, je cite, ces jeunes filles aux croupes charnues, aux parties étroites, qui sont pour ceux qui les possèdent aussi attrayantes que des vierges. Ibn Butlan, au XIe siècle également, est encore plus cru à propos des femmes originaires d'Éthiopie et de Nubie, en disant que si elles sont importées jeunes, elles peuvent encore être utilisées pour le plaisir. Tout aussi cru est le regard porté par Gilberto Freire sur l'esclavage dans le Brésil colonial au XVIIIe siècle. Il n'y a pas d'esclavage sans dépravation sexuelle, écrit Freire, avant d'ajouter que le fils du seigneur du moulin était ridiculisé s'il n'était pas à 12 ou 13 ans, s'il ne portait pas à 12 ou 13 ans les traces de la syphilis sur son corps. Et on trouverait dans les journaux de bord des navires négriers du XVIIIe siècle des choses tout aussi révélatrices. Et donc les usages en rapport avec la sexualité sont toujours possibles et sous-jachants dans l'esclavage. Et on pourrait même dire, certains historiens le mentionnent, que ces usages ont sans doute été l'un des éléments incitant la perpétuation de l'esclavage. Mais la femme esclave n'est pas seulement réduite à un corps. Elle peut également être remplie de multiples autres fonctions. Dans les harems, les femmes dirigent des domestiques, parfois même des ateliers de poterie, tandis que d'autres recrutent des espions ou jouent elles-mêmes ce rôle d'espion. On connaît le cas du Dahomey au XVIIIe siècle, le cas, il est vrai, assez réduit, mais où on a les fameuses Amazones, des femmes esclaves, soldats. D'autres femmes esclaves, plus nombreuses, ont été domestiques à toutes les époques, depuis le monde gréco-romain antique jusqu'au XIXe siècle. Domesticité d'apparat, et on connaît l'importance de ce rôle dans les sociétés aristocratiques et bourgeoises de toutes ces époques. Domesticité d'apparat donc, mais également domesticité productive, entre guillemets, notamment dans les sociétés où la production s'effectue dans le cadre domestique, dans l'oïkos grec, dans la domus romaine ou dans la plantation américaine. Production de textiles, de nourriture et de beaucoup d'autres choses. J'ajouterais que à la campagne, dans la villa romaine, mais également dans l'Amérique coloniale, le travail entre le travail à la maison et le travail dans les champs n'est pas toujours bien distingué. Et souvent, la femme de maison, entre guillemets, esclave, peut travailler dans les champs lors des moissons. D'ailleurs, dans la plantation de tabac et de coton, il est clair que les femmes travaillent dans les champs en permanence. Schœlcher le remarque en 1833 et s'en émeut. Oui, écrit-il, nos femmes travaillent à la terre, en métropole. Mais ils y font seulement certains ouvrages appropriés aux forces de leur sexe. tandis que sur les habitations, elles sont mêlées indistinctement avec les ouvriers et reçoivent, comme eux, des coups de fouet. En Afrique subsaharienne, précoloniale, les femmes jouent un rôle très important dans l'agriculture, hein, fondamentale, où elles sont largement présentes, et elles permettent, comme l'écrit Rouge des Bottes, de décharger les femmes libres de ce travail. En fait, comme c'était le cas déjà dans la Grèce ancienne, à pratiquement toutes les époques, tous les travaux peuvent être confiés aux femmes. Il faut rappeler que l'esclave, c'est l'homme, la femme ou l'enfant à qui on peut tout demander. Avec, néanmoins, une spécificité. Lorsqu'il y a sexualisation des tâches, on s'aperçoit qu'à chaque fois, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, elle conduit à attribuer les tâches les plus distinguées aux hommes et pas aux femmes. Alors, si tous les rôles ou presque peuvent être attribués aux femmes et aux hommes esclaves, là demeure néanmoins l'apanage de la femme, celui d'enfanter. Et là, on a une idée largement répandue selon laquelle, finalement, les sociétés esclavagistes étaient incapables de se reproduire par croix naturelle. Une idée en partie infondée, mais qui renvoie à des difficultés réelles. Hein. Notamment pour deux raisons. L'une, démographique, tient au sexe ratio hein, des esclaves. L'autre, aux attitudes des maîtres qui, depuis l'Antiquité, finalement, jusqu'au XIXe siècle, n'ont guère favorisé les naissances parmi leurs esclaves. Tout change aux Amériques à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque naît un mouvement abolitionniste qui cible d'abord non pas l'esclavage, mais la traite. Et à ce moment-là, les planteurs se mettent à favoriser les naissances, hein, parce qu'ils estiment que peut-être, d'ici quelques années, ils seront privés d'un apport extérieur en nouveaux esclaves. Et de fait, aux États-Unis, c'est au cours de la seconde moitié du XIXe siècle que le nombre d'esclaves augmente énormément. Hein. On passe de 678 000 en 1790 à 3 millions 9 en 1860. Hein. Le nombre d'esclaves augmente énormément aux États-Unis au XIXe siècle, alors que depuis 1808, la traite, et donc l'importation extérieure d'esclaves, est interdite. Donc là, c'est bien le croît naturel hein, qui explique cette évolution. Et on voit donc que lorsque l'intérêt du maître y conduit, la femme esclave peut être incitée à procréer. Mais la volonté du maître n'est pas tout. Hein, et là, j'aborde ma dernière partie, hein, troisième partie. Être femme et esclave, c'est aussi résister à la double domination des hommes et des maîtres. Et donc, c'est, en un mot, essayer de devenir acteur ou actrice de son propre destin. À ce sujet, je dois quand même le dire, il y a depuis, en gros, le milieu des années 70, un très grand mouvement d'études en faveur de la question de la résistance des esclaves. Mais dans ce grand mouvement, la place occupée par la résistance des femmes reste encore un peu secondaire. On partit d'ailleurs pour une raison générale, qui ne tient pas du tout au genre, hein, à mon sens. Une raison générale qui consiste à distinguer deux types de résistance. Les résistances dites actives, collectives et violentes, comme la révolte. Et puis les résistances dites passives, de nature plus individuelle, apparemment moins violente, comme le travail mal fait, l'absentisme, le marronnage, etc. Alors ces distinctions m'amènent à deux remarques. La première est que néanmoins, des femmes ont joué un rôle dans ces formes de résistance dites actives. Même si on n'a pas d'exemple de Toussaint l'ouverture ou de Spartacus femme, hein, on a quantité d'exemples du rôle des femmes, par exemple, dans les révoltes à bord des navires négriers. Hein. Deux exemples simplement, racontés par un armateur nantais du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1765 à Bissau. Deux navires britanniques. Dans un cas, je cite, la révolte éclata par les femmes qui n'avaient point de fer. Et dans le deuxième cas, c'est par l'intermédiaire des négresses, écrit-il, que les esclaves se procurèrent un tison avant de mettre le feu à une pile de bois et de profiter de la diversion pour se révolter. Donc les femmes ont joué un rôle dans ces résistances dites actives. Seconde remarque, elles ont joué un rôle encore plus important dans celles dites passives. Et je dirais d'ailleurs que ces formes de résistance dites passives, souvent dévalorisées, ont peut-être joué un rôle plus important dans l'histoire des esclavages que les grandes révoltes, finalement très peu nombreuses dans l'histoire des esclavages, et qui ont tout échoué, sauf celle de Saint-Domingue de 1791. Alors, dans ces résistances dites passives, certaines sont le fait plus d'hommes que de femmes, comme le grand marronnage, c'est-à-dire la fuite de longue durée. Mais d'autres sont le fait des hommes comme des femmes, comme le travail mal fait. Dans d'autres cas, on a affaire à des actes de résistance qui sont à la fois le fait des hommes et des femmes, mais avec une tonalité différente lorsque ce sont les femmes qui le pratiquent. C'est le cas de l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est l'une des grandes peurs des esclavagistes depuis la Rome antique. Caroline Houdin-Bastide a écrit un ouvrage sur le poison, la sorcellerie aux Antilles, et elle indique que finalement, souvent ce sont les hommes qui sont accusés d'empoisonnement, mais parce que finalement on met l'accent sur l'empoisonnement des esclaves et du bétail. Mais qui en fait, lorsqu'on parle de l'empoisonnement qui touche la famille des planteurs, sont les femmes qui sont mises en cause. Parce que les femmes vivent plus dans la maison, alors que les hommes travaillent plus en dehors de la maison. Donc il y a parfois une spécificité par rapport à l'empoisonnement. Je devrais mentionner au moins deux autres types de résistance. Là, je ne peux simplement que les mentionner sans les développer. Le premier, c'est l'affranchissement. Résistance, ça peut surprendre, mais j'ai voulu montrer dans certains travaux que l'affranchissement n'est pas simplement le fruit de la mansuétude, je dirais humaniste, de l'esclavagiste. L'affranchissement, c'est également le fruit du travail, de l'action des esclaves au quotidien. Et donc, d'une certaine manière, l'affranchissement fait partie des actes de résistance. Or, à toutes les époques, et partout, les femmes semblent avoir été plus nombreuses à être affranchies que les hommes. Alors, il est vrai que ce n'est pas forcément uniquement dû à leur action. D'autres facteurs ont pu jouer. Si les femmes sont plus affranchies que les hommes, comme le sont plus d'ailleurs les esclaves urbains, c'est peut-être parce que esclaves urbains et femmes sont perçus comme moins dangereux dans la société des maîtres une fois affranchis. Ajoutons que dans le Coran, la femme esclave qui a donné un enfant à son maître et dont l'enfant a été reconnu par le maître devient légalement libre à la mort de son maître. Autre type de résistance que l'on oublie presque toujours, le rôle des femmes dans la constitution de famille. Il est vrai qu'on connaît surtout cela grâce aux travaux sur les États-Unis du 19e siècle et qu'on en a peu abordé la question ailleurs à d'autres époques. En tout cas, grâce aux travaux de Herbert Guttmann, on sait que l'affirmation progressive d'une structure parentale double et stable a facilité la transition vers la liberté. Or, les femmes ont joué un rôle dans la mise en place de cette structure parentale double, l'homme, la femme et les enfants. Le cas des Antilles françaises est intermédiaire, ne correspond pas tout à fait au cas américain. Arlette Gauthier montre en effet que dans les grosses plantations aux Antilles, entre le XVIIe et le XIXe siècle, les esclaves vivent majoritairement en couple, mais qu'ailleurs, en partie d'ailleurs à cause du sexe ratio, ces unions ne sont pas toujours possibles. Et qu'on a, dans un quart des cas, des foyers monoparentaux. Et Gauthier donc indique qu'une certaine polygamie de fait, la pratique, dit-elle, des relations du dehors, ont conduit néanmoins à installer ce qu'elle appelle un multipartenariat stable. En tout cas, il y a toujours la volonté des femmes de stabiliser le noyau familial. Enfin, dernier type de résistance, évidemment uniquement féminin, c'est ce qu'on appelle la grève des ventres, à savoir le refus de femmes de donner naissance à des enfants qui deviendront eux-mêmes esclaves. Et sans doute, c'est l'une des raisons également de la difficulté des sociétés esclavagistes à se reproduire par croix naturelle. Alors, difficile de conclure, d'apporter des éléments, je dirais, un peu généralisables, puisque ce travail, comme je soulignais en introduction, est en partie exploratoire. Néanmoins, il y a trois choses qui me paraissent évidentes. La première, c'est l'ampleur des stéréotypes et des clichés culturels, historiographiques, hérités de nos sources et aussi de la lecture, parfois, de ces sources. Deuxième chose, c'est que les femmes esclaves le furent autant que les hommes, voire plus, et que d'ailleurs, d'un point de vue quantitatif, hein, je n'ai pas développé ça, mais on pourrait le faire, d'un point de vue quantitatif, le nombre des femmes fut loin d'être négligeable. Dans l'Antiquité, on sait que gréco-romaine, que lorsqu'une ville est prise, les hommes sont souvent tués, et que la majeure partie de la population féminine, du moins point trop âgée, est réduite en esclavage. Donc il y a un nombre important de femmes esclaves dans l'Antiquité gréco-romaine. En Corée, au XVIe siècle, il n'y a que des femmes qui peuvent être réduites en esclavage pour cause de pauvreté. Ça s'explique par un faible nombre d'hommes après l'invasion japonaise. Mais néanmoins, seules les femmes peuvent être réduites en esclavage en Corée, au XVIe siècle, pour raison de pauvreté. Dans l'Afrique subsaharienne précoloniale, la plupart d'historiens sont d'accord pour dire que globalement, le nombre des femmes a dépassé celui des hommes. Dans les traités orientales, certains disent que plus de femmes auraient été concernées, j'en suis pas sûr. Mais sans doute que sur la longue durée, le nombre d'hommes et de femmes s'est à peu près équilibré. Finalement, il n'y a que peut-être que dans le monde américain colonial que le nombre d'hommes aurait été plus important que celui des femmes, mais au moins plus d'un tiers, en tout cas, des Africains déportés vers les Amériques étaient des Africaines. Enfin, troisième point, et je finirai par cela, il me semble que la figure classique toujours mise en avant de l'esclave concubine, qui nécessite des travaux, bien sûr, mais je pense que d'autres figures méritent également d'être étudiées, hein, notamment l'esclave, la figure de la femme esclave résistante, de la femme esclave mère, et puis tout simplement, je dirais, de la femme esclave femme. Voilà, merci de votre attention.